Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, je veux qu'on revienne là, sur cette enquête du journal Le Devoir là, qui montre aujourd'hui qu'il y a des congrégations religieuses qui se savaient vulnérables à devoir payer des indemnisations pour des abus sexuels passés, puis qui ont déplacé de l'argent vers d'autres structures et, oups, il semble que ça va être plus difficile de se faire payer ces indemnisations.
Oui, mais évidemment, il y a un enjeu légal là-dedans. Moi, je suis CPA, mais ce que je peux te dire, c'est que au niveau des sociétés Inc. ou des organisations, quand il y a un voile corporatif, quand il y a une personne morale qu'on peut poursuivre et qu'on transfère des fonds dans une autre personne morale, là, ça va être une étape de plus pour tenter de démontrer que le transfert de fonds était lié à une mauvaise intention. Et ça, Patrick, on en parle dans ce cas-ci, mais ça existe aussi dans un cas fiscal, par exemple. Tu sais, s'il n'y a pas juste les institutions religieuses qui tentent de déplacer ou qui ont l'air, parce qu'on ne peut pas présumer, mais qui ont l'air de déplacer de l'argent, il y a des gens, par exemple, qui vont céder des actifs à leurs enfants, à leur ex-conjoint, à quelqu'un d'autre pour dire « je ne suis plus citoyen canadien, mais c'est d'apparence puis c'est contesté ». Donc, des manipulations comme ça ou des déplacements d'argent, je ne veux pas dire de manipulation, je ne veux pas avoir de poursuite contre ma personne, morale ou non. Mais c'est de montrer à quel point le droit protège les personnes grâce à un certain voile corporatif, protège certaines compagnies grâce à certaines autres compagnies, organisations grâce à d'autres. Et même quand tu es une entité légale peut être poursuivie, cette entité-là peut dire « écoute, je vais m'arranger avant d'être poursuivi pour tenter de transférer des fonds à une autre entité ou de transformer l'entité ». Et c'est un peu choquant quand tu y penses parce que tu es une congrégation religieuse qui est accusée de quelque chose qui est immoral et tu te sers, entre guillemets, du voile de la personne morale pour te protéger. C'est un peu ridicule quand on y pense. Je comprends que il y a des gens là-dedans qui sont humains. Puis qui se disent, OK, gestion de risque, qu'est-ce qu'on fait? On va protéger l'argent, on va le déplacer. Mais quand tu y penses d'un point de vue éthique, ce sont des congrégations qui tentent de défendre, dans le fond, les actifs financiers de la congrégation contre la responsabilité financière et morale. Moi, c'est ce côté-là qui me fascine de dire...
Ce que tu me dis, c'est que si on a fait ça sciemment, c'est légal. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais c'est pas vraiment moral.
Maintenant... Ça peut être légal, mais si on démontre que le mouvement d'argent a été fait ou la transformation, disons, d'entité légale a été faite dans le seul et unique but d'éviter de payer, mais ça peut. Il y a des recours légaux comme ça, mais il faut les démontrer. Mais c'est une étape de plus. Ça étire les procédures. Ça peut décourager du monde. Et ça, c'est triste parce que je vais t'avouer que ce genre de manipulation-là, de déplacement-là, on le voit dans d'autres circonstances, comme je te parlais. Puis c'est. Souvent un peu douteux, surtout au niveau fiscal, tu sais, du genre « Ah, moi, je donne tout à mon fils ma maison dans Westmount parce que je veux aller vivre à l'étranger. »
On a vu ça dans la foulée des scandales de corruption d'il y a 10 ans, là, la commission Charbonneau, etc., des gens qui savaient à risque puis qui vendaient, par exemple, leur maison à leur épouse pour une pièce.
Il y a des gens en amont qui font des choses, c'est-à-dire « Je vais avoir un comportement douteux ou je prends un risque d'affaires très élevé. Je vais transférer légalement à une personne de confiance mes actifs. » Comme ça, si je me fais détruire, mes actifs seront encore, entre guillemets, à quelqu'un de confiance et j'aurai peut-être une entente, disons, à l'extérieur avec cette personne-là. Mais encore une fois, il y a des actions légales qui permettent d'aller, disons, saisir ça quand c'est démontré que c'est dans un point de vue de malversation, fraude ou autre.
Mais Pierre, mais c'est pas évident. Tu l'as dit, tu l'as souligné. Oui, tu peux prendre des recours, tu peux prouver ça, mais là, à un moment donné, si tu es une victime... T'as pas envie de faire ça non plus. T'as pas envie de te lancer dans cette nouvelle bataille.
J'imagine. Mais évidemment, quand c'est un recours collectif, il y a un cabinet d'avocats derrière ça, mais ça attire les procédures. Et dans les recours collectifs, le tabac, les régimes de retraite de seniors, par exemple, des fois, c'est tellement long que le recours va au bout de ta vie. Alors, ça aussi, il faut en parler, de dire, est-ce que c'est une tentative de protection d'argent pour des citoyens ou des personnes dans l'organisation religieuse au détriment des victimes? Ça se peut, mais je ne peux pas l'affirmer, Patrick, et ça ne me tente pas d'avoir une poursuite pour ça.
Très bien, parfait. Parle-nous des marques qui ont le plus de valeur dans le monde.
Oui, c'est parce que, évidemment, tout ça, Patrick, c'est toujours une question de marketing de la compagnie derrière. Puis là, Kantar fait un espèce de décompte des 100 compagnies avec, disons pas les compagnies, mais les marques qui ont la plus grande valeur, hein, le brand value. Et comment on évalue ça? On fait une formule du type la valeur financière et la contribution de, disons, de la qualitative de la marque à la capacité de vendre plus cher. Comme par exemple, Apple a une contribution de marque très élevée. Pourquoi? Il y a des gens qui sont prêts à payer un surplus parce que c'est Apple. Puis là, il y a le décompte des 100 compagnies qui ont le plus de valeur, pas compagnie, mais marque. Parce qu'il faut distinguer, comme par exemple, Colgate, c'est la 100e marque, mais ça fait partie de la compagnie Colgate Palmolive. Tu comprends? Donc, Amazon est en haut. Après ça, tu as Apple, Microsoft, mais il y a plein de choses intéressantes là-dedans. On nous dit, regardez, les abonnements, c'est intéressant parce que ça prend beaucoup de valeur. Effectivement, les abonnements au niveau financier, c'est intéressant parce que comme sur Spotify et autres, les gens payent mensuellement, sont tellement abonnés à la marque et au service que ça fait monter la valeur de la marque dans la tête des consommateurs. Et ça fait en sorte que ça crée de la notoriété. Donc, tu vois des entreprises comme Netflix, Zoom, Spotify qui sont dans le top 100 et qui font refléter la valeur de la prise de valeur de la marque. Et c'est drôle parce que là, tu regardes des marques et tu te dis, attends une minute, là. YouTube est après, par exemple, Disney, mais Disney est après Starbucks. Puis en haut de Starbucks, tu vas avoir IBM. Mais dans la perception populaire des gens, IBM, c'est plus une marque qui a la même valeur qu'autrefois. Mais il ne faut pas oublier, il y a du business to business là-dedans. Puis il y a du business to consumer. Fait, customer, excuse-moi. Fait, donc tu vois, il y en a que le grand public connaît la marque. Mais que quand tu as des entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises, même si le grand public ne connaît pas, la marque a beaucoup de valeur. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec une compagnie comme Oracle, tu sais, qui est au niveau de l'informatique, mais le grand public souvent ne connaît pas Oracle, mais c'est une marque qui est extrêmement pesante dans la valeur. Même chose comme Autodesk. Autodesk est au 89e rang.
Autodesk, c'est un logiciel.
Autodesk, c'est la compagnie mère d'AutoCAD. Donc, le logiciel qui sert à faire des dessins techniques. Donc, quand tu es ingénieur, tu connais très bien Autodesk. Mais quand tu es un commun des mortels, tu dis bof. Tu sais, c'est comme Xbox est là. Mais Xbox, c'est une marque de Microsoft. Et donc, tu vois, tout ça est intéressant. Puis tu te retrouves avec, par exemple, Instagram, qui est juste après Nike, avant Louis Vuitton. Donc, dépendant de qui dans la vie, ta perception des marques est une chose, mais la réalité de la valeur de la marque est autre chose, parce qu'il y a une valeur financière, puis il y a une valeur de capacité de faire payer le consommateur. Comme par exemple, tu as Uber, qui ne fait pas d'argent encore de façon significative, mais qui a une valeur de marketing extrêmement élevée parce que c'est dans la tête de tout le monde. Moi, je trouve ça vraiment fascinant, ces décomptes-là, parce que dans le fond, qui est le grand gagnant de ce décompte-là? C'est aucune des compagnies qui est dedans. C'est que tous les médias, dont moi, je viens de faire, parlent de ces marques-là, ce décompte-là, au nom de Kantar, qui est la compagnie, dans le fond, qui va bénéficier de ça.
Et on contribue à leur renommée.
C'est fou pareil, hein? Donc, moi, je trouve ça fascinant, le marketing, parce qu'il y a un côté qualitatif là-dedans qui est très intéressant de dire, il y a, oui, la valeur financière, oui, il y a la reconnaissance de la marque, mais tu sais, par exemple, Hermès, qui est une compagnie de sacs à main et autres, ben, ils vont être mieux cotés que IKEA. Et là, tu te dis, ouais, t'as une minute, là. Puis là, il y a un décompte de ce qui augmente, ce qui descend, mais il y a des critères. Il y a une formule inventée par la compagnie, un multiplicateur, un facteur. Mais je trouve ça quand même fascinant. Tu sais, Bank of America au 98e rang, puis RBC au 63e rang. T'as Toyota au 64e rang.
RBC, ça, c'est la Banque canadienne.
La Banque royale.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies canadiennes que tu as remarquées là-dedans?
Écoute, il y en a quelques-unes, là, mais c'est parce que c'est surtout américain, Patrick. C'est les marques, faut pas oublier. Hein. C'est pas les compagnies, mais les marques. Donc, si tu regardes dans le top 50, tu es aux États-Unis pas mal. Il y a quelques exceptions. Il y a des marques chinoises, mais en général, il y a ça. Puis, il faut pas oublier, comme par exemple, Salesforce, qui est pas du tout connu du grand public vraiment, mais qui est une entreprise connue au niveau des corporations. Donc, moi, je trouve ça fascinant, Patrick, mais je te dirais que j'ai cherché la marque Patrick Lagacé, pas dans le top 100, malheureusement.
Cherche que 98.5.
Oui, ça non plus.
Merci, Pierre-Yves, on se retrouve... Non, hey!
Hey, on se retrouve au mois d'août.
C'est vrai, c'est ta dernière journée de la saison. Hey, Pierre-Yves, toujours un plaisir d'échanger avec toi, puis ben je sais que les auditeurs t'aiment beaucoup. Ben, hâte de te retrouver.
Ben, on se revoit au mois d'août.
Salut, bonne piscine, ciao! 17h33.